Bonjour à tous. Alors je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin j'ai le plaisir de démarrer une nouvelle série pour les semaines à venir qui, je l'espère, vous encouragera à voir encore un peu mieux le plan de salut extraordinaire que Dieu a déployé pour l'humanité dans le livre des Actes des Apôtres. Rappelez-vous cette première série, ce survol sur cette première portion des 12 premiers chapitres du livre des Actes, qui nous raconte ce qui s'est passé justement après cette première Pâque que nous avons fêtée dimanche dernier. Jésus-Christ, mes amis, est ressuscité, il est vivant. Et ce livre des Actes débute justement avec Jésus-Christ vivant qui se présente à ses amis, à ses disciples, et qui leur transmet justement, avant de retourner vers son Père, cette feuille de route extraordinaire que je vous propose de lire, cette feuille de route extraordinaire pour les siècles à venir. Le verset 8 du chapitre 1. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, Jésus quitta ce monde pour retourner auprès de son Père. Et dès le deuxième chapitre, nous avions vu que le Saint-Esprit, la présence et la puissance de Dieu, a été répandue sur les disciples de Jésus-Christ pour témoigner et partager au monde de cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, vivant et ressuscité. Il est vivant. Et comme l'a présenté cette troisième strophe du nouveau chant qu'on vous a partagé la semaine dernière, je lis: leurs pas résolus sillonnent les nations. L'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus-Christ. Et la suite du récit des Actes, c'est cela. Sous la plume de Luc, le livre des Actes nous entraîne dans ce récit historique de l'expansion de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, par cette propagation de la parole de Dieu, de la prédication de la personne et de l'œuvre en Jésus-Christ, et qui est proclamée par l'action et la puissance du Saint-Esprit. D'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, des hommes et des femmes découvrent ce message d'espérance. Jésus-Christ est le sauveur du monde. La réconciliation avec Dieu est possible parfaitement. Alors écoutez-le. Et nous découvrons au fil de ce récit des hommes et des femmes toujours plus nombreux qui croient en ce message et que Dieu conduit dans une nouvelle communauté qui est en train de se former. Ils prennent plaisir à se retrouver, à se serrer les coudes dans les difficultés, à s'aimer, à écouter les enseignements des apôtres, à rendre gloire à Dieu, à se structurer. On assiste à une croissance extraordinaire du nombre des disciples de Jésus-Christ. Un à un, centaine par centaine, Dieu rajoute à son peuple des disciples. Mais on a découvert aussi que rapidement, ces premiers chrétiens faisaient face à l'opposition, à des menaces, à des intimidations, à une persécution. Mais Dieu veille. Dieu a soutenu l'unité de ses églises. Dieu a soutenu cette croissance. Dieu a soutenu son témoignage dans ces difficultés-là, de façon extraordinaire. Et cela rend gloire à Dieu, à son nom. Et on découvre que Dieu bouscule même ces premiers chrétiens. Cette compréhension qu'ils ont, ce salut, ce message de Jésus-Christ ressuscité qui pardonne les péchés des hommes est reçu par tous. Par tous. Imaginez-vous, les juifs, les non-juifs, les païens, les samaritains, les romains découvrent la délivrance accordée en Jésus-Christ. Incompréhensible pour ses disciples de l'époque. Et ces premiers 12 chapitres évoquent, parcourent ce ministère de Pierre dans cette région, avec un accent particulier sur cette église de Jérusalem, qui est le centre névralgique de cette expansion. Et nous arrivons au texte de ce matin, qui présente un tournant décisif, massif, avec ce chapitre 13. Et ce chapitre 13 commence à plus de 700 km au nord de Jérusalem, dans la ville d'Antioche, que je vous propose de prendre ensemble en ouvrant vos Bibles. Antioche est considérée à cette époque-là comme la troisième plus grande ville de l'Empire romain. Imaginez-vous, la troisième, après Rome et Alexandrie. On considère qu'il y avait au moins 500 000 d'habitants. Alors lisons.
Prenons acte 13, nous lisons les versets 1 à 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, c'est en effet de ce que son nom signifie, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit
« Homme, plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil.
L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem.
Vous savez, on considère qu'il y a trois types de personnes. Il y a celles qui font que les choses se produisent, il y a celles qui observent ce qui s'est produit, il y a celles qui s'interrogent sur ce qui s'est produit. Et c'est la même chose pour les églises. Oui, ce chapitre 13, mes amis, marque un tournant décisif dans ce livre des Actes. À partir de ce chapitre 13, nous allons voir cette extension de l'Évangile dans tout l'Empire romain, dans presque 40 villes différentes. Le plan de Dieu continue de toucher les peuples, de toucher les nations. Mais ce matin, c'est dans cette église d'Antioche que nous nous trouvons. Alors cette église d'Antioche, et on le voit au chapitre 11 de ce livre des Actes, est née par le biais de chrétiens, justement, qui ont fui la persécution. Et on découvre une communauté composée de juifs, mais aussi de non-juifs. Une église dynamique, avec une croissance forte. On découvre une église qui a une doctrine saine, qui est conforme à ce que les apôtres ont enseigné, à ce que Jésus-Christ a confié. On voit une soumission évidente à l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire une soumission à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs à Antioche qu'on donnera pour la première fois à ses disciples le nom de chrétien. Chapitre 11, verset 26. Un nom moqueur, mais que les croyants porteront, néanmoins avec fierté. Et c'est une église que Dieu va utiliser pour partager ce message du salut en Jésus-Christ plus loin. Et dans ces 13 premiers versets, nous découvrons cette vérité, que c'est sous la conduite, sous la direction de Dieu, que l'Évangile se répand, en se servant d'hommes spirituels disposés à l'écouter. Des hommes qui s'abandonnent à Dieu pour le servir. C'est sous la conduite de Dieu que l'Évangile se répand, en se servant d'hommes disposés à l'écouter. On découvre en effet une église dotée de responsables spirituels qui vont accomplir en deux une mission spirituelle, qui vont affronter en trois l'opposition spirituelle, mais qui va se terminer en quatre, par une victoire spirituelle. Et c'est comme ça que je voudrais parcourir ce récit. Alors, un des responsables spirituels. effectivement une église avec des hommes de Dieu extraordinaires. Et on découvre tout au long de la Bible d'ailleurs que Dieu accorde une grande importance au choix des responsables, de ses conducteurs spirituels pour son peuple. Nous l'avons vu récemment avec la série de Néhémie. Néhémie, Esdras, quels hommes exceptionnels Dieu a suscité. On l'a découvert dans cette première partie d'Actes, avec les apôtres, avec Pierre en particulier, mais aussi par cette mise en place très concrète des diacres au chapitre 6, des hommes que Dieu a pris soin de choisir et qui vont servir l'Église. Et Luc nous présente ici 5 hommes, comme prophètes et enseignants dans cette église locale d'Antioche. Simplement pour essayer de clarifier, un prophète, c'est quoi ? C'est un homme qui est particulièrement qualifié par le Saint-Esprit pour recevoir les révélations de Dieu et les partager aux autres. Qualifié par le Saint-Esprit pour recevoir les révélations et les partager aux autres. Un enseignant, qui pourrait être aussi traduit par docteur selon certaines traductions, étaient des hommes auxquels le Saint-Esprit avait donné cette capacité d'expliquer la parole de Dieu, de faire comprendre. Aujourd'hui, on parlerait peut-être de pédagogie, de transmettre de façon simple et compréhensible cet enseignement de Dieu en Jésus-Christ. Et par la présence de ces hommes, par la présence de ces dons, cette église locale d'Antioche s'est affermie et s'est développée dans la foi. Luc parle de 5 hommes. 2 qui encadrent cette liste, nous les connaissons plus particulièrement, plus précisément, Barnabas et Saul, alias Paul. Pour ces 2 hommes, on a bien évidemment plusieurs textes, notamment dans ce livre des Actes, qui nous permettent de mieux cerner, de mieux discerner, de mieux comprendre leur qualité spirituelle, leur engagement, leur foi, leur attachement à Dieu, leur attachement à Christ. Simplement pour nous donner une idée, un bref focus sur Barnabas, qui veut déjà dire « fils d'exhortation ». Barnabas, nous le découvrons au fil de ce livre des Actes. On apprend que c'est un lévite originaire de Chypre, qui montre sa générosité envers l'église naissante, au chapitre 4. Il est celui, cet homme, qui a convaincu l'église de Jérusalem d'écouter le témoignage authentique de Saul, justement. Mais regardons un autre texte qui démontre sa vie avec le Seigneur, et on est au chapitre 11, à partir du verset 22, nous lisons ceci, et c'est justement cette église d'Antioche qui est en pleine croissance. « La nouvelle en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes, etc. etc. » Il y a Saul, il y a Paul, qu'on découvre dès là, cette relation privilégiée qui sont en train de se développer. Mais Paul, pas besoin d'en faire un portrait, nous le découvrirons par la suite. Par contre, entre ces 2 personnages, 3 autres sont nommés. Nous ne savons pas davantage ce qui nous est dit ici. Siméon le Noir, un nom clairement juif, associé à un diminutif appelé Noir. Est-ce qu'il a le teint basané ? Est-ce que c'est un Africain ? Nous avons Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est une ville qui est plutôt loin, à l'ouest de l'Égypte. On a Manaen, homme de la haute société, qui a grandi, élevé, qui s'est formé à la cour d'un grand Hérode, le Tétrarque. Un très mauvais dirigeant, pardon. Et pourtant, Dieu l'a cherché. On voit différentes personnes qui sont clairement d'origine différente, de cultures différentes, mais une même appartenance à Jésus-Christ et un même fardeau pour cette église d'Antioche, avec des dispositions spirituelles. Et Luc nous dit, au verset 2, qu'il s'attache à un ministère spirituel pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait. Tout comme les apôtres, un ministère spirituel. Le texte nous dit qu'il rendait un culte au Seigneur. L'idée du mot original, c'est l'idée d'un service comme un acte d'adoration, comme on aurait pu le dire, un service comme les prêtres au service du temple, pour le Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui sert, c'est le Seigneur. Ils le font pour le Seigneur. Au point qu'ils manifestent cette consécration toute particulière au travers d'un jeûne, au travers de la prière. Et c'est dans cette situation spirituelle d'attachement, de consécration, de dépendance à Dieu que Dieu leur confie une mission spirituelle bien particulière. Et c'est le point 2 que je voudrais voir, une mission spirituelle. Regardez le verset 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Dieu intervient par le Saint-Esprit et donne de nouvelles perspectives, souhaite donner de l'ampleur spirituelle à quelqu'un qui a déjà un ministère spirituel. Cette mise à part particulière de Dieu est particulièrement intéressante. On ne sait pas ce que cette église attendait de particulier. Est-ce que ses responsables avaient un cœur, une interrogation à partager l'évangile plus loin? Est-ce qu'ils se questionnaient sur ce qu'ils devaient faire? Sur la stratégie à adopter pour toucher cette grande ville urbaine? Avaient-ils des défis particuliers d'enseignement, de structuration, des problèmes doctrinaux? On ne sait pas. Luc est silencieux sur cette préoccupation-là. Ce n'est pas l'essentiel. Non, là, le focus est sur Dieu. C'est Dieu qui, à ce moment-là, intervient et confie de nouvelles responsabilités différentes, plus grandes, à quelqu'un qui en a déjà. Dieu va envoyer, non pas quelqu'un de lambda, d'oisif, d'inconnu pour l'Église, qui ne manifeste aucune disposition à servir le Seigneur, pour un ministère qui va s'annoncer d'envergure. Non, Paul et Barnabas servent déjà le Seigneur avec une consécration extraordinaire. Paul, ça fait 15 ans qu'il connaît le Seigneur. A priori, ça fait 8 ans que Barnabas et Saul, qui sera appelé Paul, servent ensemble. Plusieurs années ici, déjà a priori dans cette église d'Antioche. Des hommes d'expérience, des hommes de confiance. Et c'est à eux que Dieu intervient. C'est à eux d'ailleurs aussi que Dieu, que l'église d'Antioche leur avait confié une collecte à la fin du chapitre 11 et 12, une collecte en faveur de Jérusalem qui était face à une épidémie de famine. C'est à eux qu'on leur a confié, des hommes de confiance. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui met à part pour une mission particulière et non plus l'église d'Antioche. Mes amis, tout ministère, tout service dépend de Dieu. Voilà les hommes que Dieu met à part et dont Dieu va disposer pour propager l'évangile. Alors un principe qu'on peut déjà retirer, c'est Dieu qui appelle à endosser, à revêtir un ministère. Ce n'est pas un choix d'église, ce n'est pas un choix personnel, c'est l'Esprit souverain qui a appelé. Comment l'a-t-il formulé? Le texte ne nous dit pas la forme que cela a pris, sinon qu'ils étaient disposés à ce moment-là à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons, bien évidemment, qu'ils ont une soumission, une acceptation collective de ce que le Seigneur a dit à ce moment-là. Imaginez-vous, c'est deux des responsables. C'est collectif. N'aurait-il pas des besoins à ce niveau local? Est-ce que l'Église ne va pas perdre quelque chose avec ce départ-là? Mais le verset 3 nous dit simplement qu'ils ont prié, qu'ils ont jeûné, qu'ils ont imposé les mains, non pas en signe de revêtir le Saint-Esprit, mais en signe d'association, en signe de communion, de confirmation de leur mission avec eux, d'unité. Et regardez, ils les laissèrent partir. C'est bien le Saint-Esprit qui dirige. La direction de Dieu est claire pour eux. Et Luc le rappelle par la suite au verset 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. Ce que je trouve aussi extraordinaire dans ce temps de cette mission spirituelle confiée à Barnabas et Paul ne commence pas très loin. À une longueur d'une grosse journée de navigation, ils arrivent à cette île en face du port d'Antioche est celui-ci, hein, à Chypre, cette île qui est visible par beau temps depuis ce port. Chypre, cette terre natale de Barnabas. Chypre, une île où les Juifs sont nombreux. Chypre, une île dont plusieurs chrétiens sont venus de cette île pour fonder cette église d'Antioche. Et là, l'équipe va sur cette île prêcher l'évangile. Alors d'abord à Salamine, le centre commercial de l'île. Le texte nous dit, verset 5, « Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. » Ils avaient aussi Jean pour aide. Je suis sur ma faim, je ne sais pas vous. Luc ne détaille pas plus. Quels sont les fruits de ce travail? Quel est le contenu de leur enseignement? Combien de temps ça dure? On ne connaît pas tout cela. Parce que l'accent, mes amis, n'est pas là, ce matin du texte. Luc veut simplement nous montrer que Dieu est aux commandes pour partager l'évangile plus loin, de cette nouvelle mission spirituelle qui commence par ces deux hommes. Dieu met à part des personnes qui sont consacrées, des personnes qui sont vues comme déjà engagées pour Dieu, des disciples dans le service, dans la prière, dans le jeûne. Est-ce que nous souhaitons que Dieu nous utilise? Que Dieu nous conduise en tant que personne, en tant qu'Église, en tant que disciple? La parole nous dit que cela commence déjà par le service pour Dieu, là où on est. Nous consacrer aujourd'hui, maintenant, avant de peut-être entrer dans des œuvres plus spécifiques avec Dieu. En 3, on voit la suite, on voit une opposition spirituelle, à partir du verset 6. Paul, on apprend que Paul et Barnabas traversent l'île, environ 145 km, et arrivent de l'autre côté de l'île, à Patos, où ils vont faire face à cette première opposition. Alors Patos, c'est la capitale administrative de l'île, de Chypre, lieu du gouvernement romain. C'est aussi reconnu comme un haut lieu d'adorateurs, d'Aphrodite, avec une prostitution religieuse. Et là, l'équipe se retrouve face à, le texte nous dit, un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus, qui fait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. C'est une personne proche du pouvoir. Mais il se trouve que Luc nous apprend que justement ce gouverneur romain est intéressé par les écouter. Il est intéressé par ce nouveau mouvement religieux des chrétiens. Il porte un intérêt. Je lis au verset 7. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Extraordinaire. Dieu suscite dans son cœur ce désir d'écouter. Le gouverneur porte un intérêt au nouveau message des chrétiens. Et au vu de l'enseignement qu'apportent Barnabas et Saul, Élimas, le magicien, se sent menacé. Il s'oppose. Il cherche à empêcher le gouverneur de comprendre. Il veut entraver le progrès de l'évangile. Et manifestement, ce gouverneur a plus que simplement de la curiosité. Cet homme a de vraies aspirations, puisque Luc nous dit que ce faux prophète juif cherche à détourner quoi? Le gouverneur de la foi. Cet épisode rappelle ce que Pierre a lui-même vécu avec Simon le magicien en acte 8, dans la région de Samarie. Je trouve que cet épisode illustre aussi cet enseignement de Jésus en Matthieu 13, de cette parabole du bon grain et de la mauvaise herbe, de l'ivraie, selon certaines traductions. Matthieu 13. Quand Jésus sème, ce texte nous dit que, cet enseignement de Jésus nous dit, quand Jésus sème des véritables enfants, Satan vient et sème une contrefaçon, la mauvaise herbe. Et là, Paul le met clairement en lumière dans la suite du passage. Il y a une opposition. L'annonce de l'évangile, mes amis, produit une opposition spirituelle. Et Luc veut nous montrer que c'est important. Les premiers disciples de Jésus l'ont expérimenté très rapidement. Alors même que cette mission spirituelle a été conduite par Dieu, alors même que ça a été suscité par le Saint-Esprit, cela n'empêche pas une opposition, cela n'empêche pas des bâtons dans les roues. Mais, et c'est ce que termine cet extrait, ce passage, on découvre en 4 une victoire spirituelle. Dieu veille. On découvre que Paul que Saul en a assez des agissements de cet homme. Il est conscient que Sergius Paulus recherchait honnêtement la vérité et que ce magicien souhaitait l'en empêcher. Alors est-ce que Paul perd patience? Non, on lit au verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme, plein de toutes sortes de ruses, de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Paul dénonce avec fermeté ces agissements du faux prophète. Il n'est pas trompé. Et les mots que Paul emploie sont durs, hein. « Fils du diable, ennemi de justice ». Et puis Paul annonce cette sentence au verset 11. Alors que ce magicien en a entraîné probablement d'autres dans l'obscurité des ténèbres, dans l'égarement, alors qu'il voulait maintenir ce gouverneur dans l'obscurité, il va lui-même être physiquement aveuglé, pris de cécité, qui va essayer, et le texte nous dit, de trouver des personnes pour le guider. Celui qui guidait faussement est perdu. Il est vaincu et réduit au silence. Et là encore, ça démontre la puissance de Dieu. C'est immédiatement que nous dit le texte. Sur le champ, Dieu intervient. Mais en même temps, on voit aussi la grâce de Dieu. Le jugement n'est que temporaire. Pour un temps, tu seras privé de la vue. Et cette cécité permet à Paul et à Barnabas d'aller plus loin dans leur échange avec ce gouverneur. Dieu met en place ce miracle pour confirmer l'authenticité de ses messagers, la véracité de leurs paroles. Dieu révèle les vrais messagers, mes amis. Et ce qui pousse le gouverneur à croire, ce n'est pas ce miracle, mais l'enseignement du Seigneur. Relisez verset 12 avec moi. « Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. » Les yeux de cet homme s'ouvrent et découvrent la lumière glorieuse de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut. Et encore une fois de plus, nous ne savons pas plus à la lecture de ce texte. On ne parle pas de baptême, Luc n'évoque pas s'il est maintenant un disciple de Jésus, mais Luc démontre qu'il y a une démarche de la part de Paul et Barnabas qui a pu aller à terme avec cette présence des envoyés de cette église d'Antioche. On ne peut pas s'opposer au plan de Dieu de toucher les nations, y compris d'interpeller les grands, les hommes de pouvoir. Et cette première étape de la mission que Dieu a confiée est couronnée de succès. Et le dernier verset, verset 13, présente que le voyage se poursuit pour une partie de l'équipe. Ils vont plus loin. Cette mission confiée par Dieu ne fait que de débuter. Et la semaine prochaine, nous verrons un peu plus loin, dans une ville, un des discours que Luc a choisi de retenir pour nous. Une discussion à Antioche de Pisidie. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors, que retenir? Quel enseignement nous laissent ces premiers versets du chapitre 13? Mes amis, Dieu décide quelle personne il utilisera à tel moment pour faire avancer son œuvre, son royaume. Mais Dieu se sert de personnes qui sont abandonnés à lui, qui sont prêts à le servir dès à présent. Il n'a pas tiré de nulle part ces hommes choisis pour cette mission. Ces hommes ont servi l'église locale. Ils ont été reconnus pour leur intégrité, pour leur exemplarité spirituelle dans l'église, pour leur justesse théologique. Alors, quelques applications pour nous ce matin. On a le désir d'être utile à Dieu. Peut-être que les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour vous, seront d'envergure demain, on ne le sait pas. Mais tout comme on le découvre ici, et comme on le découvre dans bien des biographies de missionnaires, de pasteurs, d'orateurs éloquents, elle a commencé tout simplement par une vie d'obéissance, une vie de disciple, consacrée, fidèle, attachée à Jésus-Christ, servant le Seigneur dans leur église locale, dépendant dans la prière, dépendant dans le jeûne. Et c'est ce qui est bouleversant avec cette œuvre du Seigneur dans la vie des uns et des autres. Quand on prenait le soin d'écouter les parcours des uns et des autres, c'est extraordinaire la manière dont Dieu a appelé des hommes à le servir. Et je vous encourage pour cela à interroger des personnes que vous connaissez, des personnes missionnaires, des pasteurs, des enseignants, des gens qui ont été utilisés par Dieu dans des circonstances exceptionnelles. Demandez-leur leur parcours. Cela a commencé par une passion pour Jésus-Christ, et qui ont été saisis par ce plan de Dieu. Et ils ont senti ce besoin qu'il soit partagé au plus grand nombre. Nous pouvons, nous, ou là où nous sommes chacun, nous engager sur ce même chemin, dans cette recherche sincère de la volonté de Dieu pour nos vies. Mes amis, la portée de cet événement, c'est un petit événement, cette obéissance est historique et pourtant si simple. Un petit épisode où Dieu a dit « Mettez-moi à part », qui va entraîner des voyages, des lettres, 13 lettres sur les 27 livres du Nouveau Testament sont à Paul, qui a été envoyé en mission. Il a plu à Dieu de permettre que par un temps d'adoration, un temps de jeûne, un temps de prière collectif dans cette église, en tout cas au minimum auprès de ses responsables, ça a changé le cours de l'histoire de l'humanité. En 2 siècles, l'Empire romain va être bouleversé et impacté par l'Évangile. La grâce de Dieu s'est manifestée à travers ce petit groupe d'hommes fidèles. Actuellement, la situation mondiale que l'on traverse est plus que bousculée. Comme elle a été tant de fois dans l'histoire de l'humanité, tant de civilisations, tant d'empires qui se sont écroulés. Mais le plan de Dieu, le message de l'Évangile, a continué sa route. Son extension jusqu'à parvenir jusqu'à nous aujourd'hui, en 2020. Voilà le plan de Dieu depuis sa création, de proclamer et d'annoncer le nom de Jésus-Christ aux hommes. Est-ce que ce confinement que ce monde est en train de connaître, est-ce que le confinement des chrétiens, est-ce que le confinement des églises, est-ce que ce retour massif qu'on a assisté ces quelques semaines des missionnaires dans leur pays d'envoi, l'arrêt des voyages missionnaires pour on ne sait combien de temps, est-ce que ça va mettre un frein à ce que ce message de la bonne nouvelle touche des hommes et des femmes, touche des nations? Bien évidemment que non. Et c'est ce texte qui nous le dit. Parce que cette propagation de l'Évangile, ce message qui touche des cœurs, dépend de l'action de Dieu, par sa parole, par le soutien du Saint-Esprit, dans le cœur des hommes. Dieu se sert de tant et tant de bousculements pour déplacer son Église, pour chambouler ses enfants, pour chambouler son peuple, et pour peut-être les amener vers des endroits, des lieux, des échanges, où elles devaient se rendre pour témoigner de la grandeur du nom de Jésus-Christ. Mes amis, appuyons-nous sur Christ, appuyons-nous sur ces récits historiques pour réaliser que Dieu est ferme, qu'il n'est pas ébranlé dans le plan qui est en train de se dérouler. Oui, comme le texte se dit, nous pouvons nous attendre, même quand on est dans le chemin que le Seigneur a préparé pour nous, nous pouvons nous attendre à de l'opposition, des situations difficiles, mais Dieu est à l'œuvre et Dieu permettra aussi de les surmonter. Les voies de Dieu comportent souvent des revers, mais qui se traduisent par de grandes avancées. Je voudrais simplement terminer par un extrait de John Piper, un pasteur aux États-Unis, qui vient de sortir, il y a quelques heures, ce livre, Le Coronavirus et Christ, et je vous mettrai un lien prochainement dans un mail, qu'on peut l'avoir en audio ou en livre dématérialisé. Piper nous dit ceci, il commence par un témoignage. Le 9 janvier 1985, Christo Kulichev, pasteur d'une assemblée en Bulgarie, a été arrêté et mis en prison. Son crime ? Avoir prêché dans son église alors que l'État avait nommé un autre pasteur que l'assemblée n'avait pas élu. Après avoir subi une parodie de justice comme procès, le voilà condamné à 8 mois de prison. Et pendant son séjour en prison, il a fait connaître Christ de toutes les manières possibles. À sa sortie, il a écrit « Les prisonniers et les geôliers ont posé beaucoup de questions. Il s'est avéré que nous y avons eu un ministère plus fructueux que ce que nous aurions pu espérer à l'Église. Dieu était mieux servi par notre présence en prison que si nous avions été libres. » Et Piper continue « C'est souvent comme ça que Dieu opère. La portée et la gravité mondiale du coronavirus sont trop grandes pour que Dieu les gaspille. Cette pandémie servira son invincible objectif d'évangélisation du monde. Mes amis, soyons-le convaincus. Christ n'a pas versé son sang en vain. Apocalypse 5, 9 dit que par son sang, il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il recevra la récompense que lui a acquise de sa souffrance. Même les pandémies serviront à mener à terme le grand mandat que Dieu a commencé. Mes amis, cet événement qu'on a vu dans Actes 13, tout comme les événements que nous sommes en train de vivre, servent les grands desseins de Dieu, le grand plan de Dieu, de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il peut le faire là où on est chacun. Alors sommes-nous prêts à écouter? Sommes-nous prêts à le servir? Sommes-nous prêts à discerner ce que le Seigneur attend de nous? Alors mes amis, que la grâce de Dieu soit particulièrement déposée sur vos cœurs pour la gloire de Dieu.